Et ce sera disponible parce que ça nous aide à prendre quelques notes après pour rédiger des topos selon les questions des parents, vous voyez, voilà. Et donc, cette période très sensible de la vie, où il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements à la fois corporels et neurologiques au niveau du cerveau, donc psychologiques également. Donc, il y a cette petite enfance et l'adolescence de nouveau, où avec la puberté, il y a des changements de vie extrêmement importants et donc des changements de repères. Ce qui fait que lorsqu'on est avec son adolescent, il faut vraiment penser à ça, garder en tête que nos enfants arrivent dans une période charnière extrêmement sensible, comme lorsqu'ils étaient tout petits. Donc c'est très délicat parce que la moindre interaction que l'on va avoir avec eux va avoir un effet amplificateur qu'il n'y avait pas lorsqu'ils étaient dans l'enfance, qui est une période beaucoup plus calme en général, dans les liens beaucoup plus posés. Et c'est pour ça que c'est souvent difficile parce que justement, il y a eu cette période un peu tranquille de la relation parent-enfant relativement sereine en termes d'autorité parentale ou d'éducation et qui tout d'un coup, à l'adolescence, bah, ça ne fonctionne plus du fait de cette extrême sensibilité des personnes lorsqu'ils arrivent à cet âge-là de leur vie. Ils sont en grand bouleversement et corporel, physique et psychologique, psychique. Et en fait, donc enfin, je voudrais dire aussi que justement, être parent d'un enfant à l'adolescent, c'est vraiment s'ajuster à ses besoins, tout en le laissant aussi faire ses expériences, certaines, hein, dans une certaine mesure. En fait, c'est ça qui est compliqué à l'adolescence, c'est être parent de cet enfant, c'est-à-dire on est à ses côtés, on reste à ses côtés, de manière à faire vraiment le filet de protection, où lui, comme il grandit, il a besoin de se sentir un peu plus libre que quand il était enfant, de faire des expériences, mais tout en étant extrêmement protégé quand même par ses parents. Donc c'est à la fois permettre et autoriser une certaine exploration du monde et de ses compétences, de faire son expérience, parce que c'est vraiment dans cette période qui est longue, hein, l'adolescence, quand on parle de la préadolescence, les 11, 12 ans, où il rentre après, une fois qu'on s'enclenche la puberté, vers 12, 13 ans, là on commence l'adolescence, mais ça s'étale assez longtemps, parce qu'on va devenir adulte, on va dire peut-être autour des 20 ans, bien que la majorité soit à 18 ans, mais on peut considérer qu'on a affaire à de jeunes adultes, peut-être vers 18, 19 ans, 19, 20 ans. Et il faut savoir que la maturité neurologique, c'est en termes d'adaptation, d'émotion, de contrôle émotionnel, d'adaptation sociale, eh bien, c'est toute cette zone frontale du cerveau et sur les tempes. Et la maturation neurologique de cette zone-là, elle est effective vers 23-24 ans et pas avant. Donc, une majorité à 18 ans, voilà, on n'est pas encore dans quelque chose d'abouti et d'adulte. Il faut savoir qu'encore entre 18 ans et 23 ans, là, ça continue encore la personnalité des adolescents, des jeunes, des grands ados, là, des jeunes adultes, se continue encore à s'affiner et on va avoir affaire à des adultes véritablement vers 23-24 ans. Et pas avant. Alors, toute cette période, ça veut dire qu'on accompagne en fait son adolescent dans ses expériences parce que c'est en faisant lui-même ses explorations et ses expériences qu'il va apprendre à se protéger, connaître ses limites, ce qu'il peut faire et ce qui pour lui commence à être difficile en termes de possible aussi, expérimenter ses possibles, ses capacités. Mais tout en restant à ses côtés de manière à, bah, quand il le faut, limiter le champ des expériences. Enfin, comment on pourrait dire ça, Suzanne, vraiment protéger là où il y a du danger, en fait. C'est-à-dire le rôle du parent, là, c'est vraiment exercer son autorité dans l'idée de protéger l'adolescent. Et pour que ça fonctionne, c'est important de lâcher du lest sur des choses qui ne sont peut-être pas fondamentales en termes d'autorité parentale. Il faut choisir les aspects sur lesquels vraiment les incontournables. et ne pas perdre de temps et d'énergie et de choses qui risquent d'abîmer la relation sur peut-être parfois qui sont des points de détail qui ne sont pas fondamentaux dans la protection de son adolescent, de ce qu'il va découvrir, expérimenter dans la vie et de ses propres capacités à aller plus loin, à se dépasser dans le bon sens et aussi à se stopper pour se protéger quand il y a lieu. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou
Non.
peut-être je peux vous proposer de poser des questions?
Non, moi j'ai rien à ajouter. Je pense que tu as été très complète. Et oui, en effet, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Marlène vient de dire? Est-ce que vous avez des expériences à partager? Des difficultés?
Oui,
Madame, on ne vous a pas
c'est
demandé, vous êtes
une
maman
question quand même.
d'un.
Je ne sais pas si vous m'entendez. Sandra a une question à poser. Elle va vous la poser.
Oui.
En fait, vu que vous parlez de l'adolescence, l'adolescence, et comme vous savez, l'état d'Antoine, je ne sais pas la dame à côté s'il connaît
C'est
son
pas.
état. Ah, en fait, moi, j'ai mon fils qui est autiste. Donc, vu que la psychologue, il a parlé en fait sur l'adolescence, et là, je ne sais pas comment en fait. D'ici là, parce que je ne sais pas s'il va être suivi jusqu'à l'âge de 18 ans ou comment il va se passer, parce que là, je commence à m'inquiéter.
Je ne sais pas comment répondre à cette question, Sandra, parce que, hélas, je ne sais pas du tout quel dispositif va pouvoir être mis en place pour protéger votre adolescent, le recevoir dans quel lieu. Vous savez, ce sont des décisions d'accueil sur des lieux. Donc là, je n'ai aucune idée normalement, il est censé pouvoir être accueilli au moins jusqu'à sa majorité, mais après. En tant que jeune adulte vulnérable, il existe des structures aussi pour qu'il puisse aussi continuer à évoluer dans un cadre. Mais là, je ne sais pas comment répondre davantage. Ce sont vraiment les gens qui l'entourent, qui s'occupent de lui avec vous, psychiatre, le pédopsychiatre et puis le pédiatre qui s'occupe de votre enfant, qui pourront réfléchir avec vous sur toutes les possibilités. Et là, je n'ai pas de
Pour vous dire,
choses spéciales à dire, Sandra, là-dessus.
parce que là, en fait, comme il n'y a pas de place dans l'établissement, c'est très difficile. Donc, j'imagine quand il va arriver à l'âge de 14 ans ou à l'âge de 17 ans, on va dire 15 ans,
Chez
et
vous?
il n'y aura
Ouais.
toujours pas de place. Là, ça fait 2 ans que je suis sur la liste d'attente et en fait, dans un centre Liami. Et toujours pas de place. Et à l'école, c'est une catastrophe. Donc là, je ne sais pas quand il va grandir,
Quel âge
comment.
a-t-il maintenant, Antoine?
Là, il va avoir 7 ans, au mois d'avril.
7 ans, oui. Donc, il y a un petit peu de temps. Il va trouver des places et j'espère qu'il sera effectivement encadré et qu'il pourra être dans un lieu avec d'autres personnes pour faire des activités. Peut-être on va essayer de réfléchir sur. Vous avez d'autres enfants, Sandra, qu'Antoine?
Non, j'ai que Antoine.
Qu'Antoine. Caroline, peut-être si vous voulez poser une question sur le.
Sur un aspect particulier concernant l'adolescence.
Ou revenir sur cette histoire de protection ou de relation, comment on rentre en relation avec son ado, oui.
Alors, moi, le plus jeune qui a 10 ans, comme je vous l'ai dit, il n'est pas
Oui.
encore vraiment rentré dans l'adolescence. Pour autant,
Oui.
il côtoie des enfants plus âgés que lui,
Oui.
qui, voilà. Donc, du coup, bon, bah, forcément, il y a une sorte de mimétisme sur certains points qui commence déjà à se reproduire. Après, voilà, je ne suis pas encore confrontée. Alors, l'année prochaine, avec sa rentrée au collège, ça va être autre chose, je pense. Je pense que c'est vraiment peut-être à partir de ce moment-là où là, on prend une petite
Oui.
claque. Voilà.
Petit à petit, au fur et à mesure de la sixième, effectivement, les choses changent. Et encore,
Ouais.
c'est un tout début, mais c'est vrai que c'est une entrée dans le monde des adolescents en sixième. Oui. Ouais. Mais c'est vraiment toute cette délicatesse, en fait, de rester en lien, surtout. Oui. C'est important parce qu'ils vont pousser beaucoup le bouchon pour vérifier et quand même que, qu'on ne les rejette pas, enfin vérifier, aller chercher quelque chose de l'ordre de... En fait, ça expérimente, ça nous fait aller loin dans la patience, dans la résistance, de ne pas les rejeter et de vraiment d'être assez créatif hein, pour garder le lien, tout en étant dans des moments où il faut absolument dire non et ne pas permettre certaines choses. C'est ça qui est délicat. Et quand ils sont plus grands, parce que jusqu'à 13 ans, 14 ans, vous pouvez peut-être encore un peu les arrêter. Et encore, ça dépend des adolescents. Mais 15 ans, 16 ans, si vous ne voulez pas que votre garçon ou votre fille sorte, par exemple, parce que vous estimez que ça, c'est trop tard, que c'est dangereux, qu'il aille à tel endroit, il peut ne pas vous écouter et sortir, vous ne pourrez pas le retenir par la force. Et d'ailleurs, ça ne sera pas une bonne idée. Parce qu'il y trouvera toujours le moment, si vous y mettez la force, pour s'y échapper, s'y soustraire à votre force. Donc, ce qui est important, c'est de toute façon de tenir votre jugement, votre décision, si vous pensez que cette chose-là est dangereuse, de ne pas l'autoriser. Et si l'adolescent outrepasse ce que vous avez, votre règle, ces risques, ses propres risques. Et c'est là où, quand il revient, parce qu'ils vont essayer des choses, ils ne vont pas respecter toutes les règles que vous leur donnez, mais les règles sont posées et elles sont tenues. Après, on ne peut pas empêcher que l'adolescent s'y soumette et parfois ne s'y soumette pas et revienne et ainsi de suite. Ce qui est important, de toute façon, c'est de les avoir, ces règles, mais pour vraiment des choses importantes, hein, comme je disais tout à l'heure, il faut bien choisir ces sujets sur lesquels on ne lâche pas, les sujets qui présentent une dangerosité, un danger réel pour les adolescents. Ils savent très bien d'ailleurs pourquoi on leur dit non, pourquoi vous leur dites non sur cette chose-là, des consommations de drogue ou de fumer des cigarettes jeunes, de sortir dans certains lieux ou sans vous prévenir où ils sont. Enfin, ils savent très bien que vous avez raison. Enfin, ce sont des choses comme ça. Donc, quand ils décident d'enfreindre la règle, ils savent qu'ils s'exposent à quelque chose. Et c'est peut-être là, malgré tout, où c'est de toute façon... ils vont faire leur expérience, ils savent qu'ils ont dérogé à la règle, donc ils vont s'exposer tout seuls à certains dangers. Mais ils ont avec eux la règle que vous leur avez donnée. Ils ont ça dans la tête, ils ont leur cadre éducatif parce qu'ils ont déjà grandi dans un univers où vous avez posé les jalons sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas. Je ne fais pas de mal à quelqu'un, je n'exerce pas de la violence, ni verbale, ni physique sur quelqu'un. Je ne vole pas les affaires de quelqu'un d'autre. Je ne me mets pas en danger en ayant des conduites à risque. Vous voyez, c'est vraiment les fondamentaux comme ça. Et ce sont ces piliers-là que l'adolescent qui transgresse vos règles, il les emmène quand même avec lui dans sa tête. Et donc, et il va faire ses expériences et il va réussir quand même plutôt bien, la plupart des adolescents, à se protéger avec les règles que la plupart des parents ont pu leur donner justement. Ces piliers fondamentaux. C'est pour ça qu'en fait, être parent d'un adolescent, c'est voyager avec ses peurs, avec nos peurs légitimes. Mais c'est parfois, on est impuissant, dans une certaine mesure, à protéger totalement son adolescent. Ça voudrait dire, sinon, le mettre sous cloche ou lui faire tellement peur du monde extérieur que du coup, on va entamer sa confiance aussi dans le monde et dans ses capacités à agir, à se protéger. Ça, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Ou sinon, dans le rapport de force, je te maintiens là, non, tu sors pas par la force. Et ce qui, tôt ou tard, ça va exploser. Parce que l'adolescent, vous pourrez plus le tenir à un moment donné, la force prendra le dessus et de toute façon, il partira. Du coup, et sans règles et sans protection. Dans la révolte, dans la rébellion.
En fait, je pense que c'est comme les enfants dans le sens où plus on intervient, plus ça.
On n'entend pas très bien, Caroline.
Plus on interdit, plus ça. Il faut éviter d'interdire, en fait. J'ai l'impression qu'il faut plus expliquer les choses.
J'essaye de ne pas faire ça parce que pour. Il y a certains dangers, il y a certaines conséquences qu'il peut y avoir, plutôt que de dire ne le fais pas, je t'interdis de le faire.
Oui, il y a des choses qu'on doit interdire, effectivement, mais quand on va dire ne fais pas ça ou n'y va pas, c'est bien d'expliquer un peu, effectivement, hein, de justifier. Oui, d'exposer. Et c'est justement quand on va pouvoir justifier, là, c'est pas possible, je ne peux pas te laisser faire ça. Ce serait n'importe quoi si je te laissais sortir à telle heure, à l'âge que tu as. Mmh. Ça présente des risques. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Je ne peux pas te laisser faire ça. Ouais.
Et par rapport à ma situation où je vous ai expliqué, vers quel âge vous pensez que... alors, je ne sais pas, après la relation d'un garçon avec son papa, et c'est peut-être pas la même chose qu'une relation avec d'un père avec sa fille, mais à quel âge on peut supposer que l'enfant commence à avoir sa propre autonomie, enfin sa propre façon de penser, et qui se détache un petit peu de tout ça, quoi.
Bah, en fait, leur propre façon de penser, les enfants les ont très très jeunes.
Ouais.
Finalement, très petits, ils ont déjà leur propre façon de penser, de comprendre les choses, d'analyser un peu ce qui se passe. Après, leur discernement, ça peut venir assez tard quand on a un parent qui est peut-être un peu dans la manipulation, qui va utiliser, vous voyez, son enfant pour atteindre l'autre parent. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas, du coup, ça
peut prendre un petit peu de temps.
Ouais. Du coup, la seule alternative qu'il y a, c'est d'attendre, effectivement, en ne rentrant pas dans ce que l'autre, en ne s'immisçant pas dans ce que l'autre est en train de faire, de manipuler. C'est-à-dire, on ne va pas discuter, oui, ton père, il te dit ça, mais ce n'est pas vrai, ou ta mère, elle te dit ça, mais c'est complètement idiot. En fait, il veut te. Si, ça, on n'explique pas, on ne rentre même pas là-dedans. On ne vous initie pas. Vous laissez cette chose-là extérieure. Et en revanche, vous pouvez continuer par des attentions à manifester votre amour à votre adolescent, à votre enfant. Et pourtant, ils nous mettent à mal, hein, les adolescents. Mais ils ne le font pas volontairement. Il y a quelque chose qu'ils vont chercher, qu'ils vont tester. Mais c'est pas, leur but n'est pas de dégommer leurs parents, en fait.
Oui.
Il y a quelque chose qui se passe de très délicat. Mais c'est comme quand ce qui nous aide quand les enfants sont tout petits. C'est vraiment de garder en éveil l'amour qu'on a pour nos enfants, le lien parental, le lien affectif que l'on a pour eux. Parce que souvent, quand les enfants sont très petits, on est un peu démunis. On ne sait pas toujours qu'est-ce qui leur arrive, de quoi ils ont besoin. Et finalement, c'est le lien affectif d'envelopper l'enfant, de le consoler, de le rassurer, qui fait que c'est ça qui nous lie, même si on ne comprend pas tout. Parce que le bébé ne nous parle pas, il ne va pas nous dire « j'ai besoin de ci, j'ai envie de ça ». Et nous, en tenant bon, en étant celui qui enveloppe, un petit peu cette espèce de fil conducteur constant, c'est ça l'adolescence qu'il faut réactiver. Alors, c'est drôlement dur parce qu'on a plus affaire à un petit bébé dont on va s'occuper joyeusement ou gentiment, parce que pas toujours joyeusement, parce que les adolescents, souvent, justement, ils vont dire « non, je n'ai pas besoin de toi, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, voilà, ils vont repousser et peut-être, je ne sais pas, peut-être davantage, non, quoi, que parfois les filles aussi n'ont pas envie que leur mère soit comme ça, s'occuper d'eux. Ils vont repousser parfois peut-être ces tentatives de tendresse, mais c'est ce lien-là affectif qui va rester le fil conducteur. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le lien affectif? C'est-à-dire, je vois que tu es en difficulté, je vois parfois que tu fais n'importe quoi, mais au-delà, qu'est-ce que je te donne? J'ai confiance en tes ressources et en tes capacités à retomber sur tes pieds un jour ou l'autre. C'est ça, en fait, qu'on va transmettre. Voilà, je suis là si tu as besoin de moi. Et en attendant, je fais confiance en tes capacités, à tes ressources de retomber sur tes pieds, de faire ce qui est bon pour toi. mais je suis ton parent et ce sera toujours le cas, tu peux compter sur moi et j'apprécie qui tu es.
Oui.
Il y a quelque chose qui nous unit. Ouais. C'est difficile,
en fait, c'est difficile en tant que parent de maintenir ce cap là, en fait, de maintenir cet amour finalement inconditionnel, parce que c'est vrai que quand on est avec son adolescent, comme l'a décrit Marie-Hélène tout à l'heure, on est face à des comportements de rejet entre guillemets, et c'est difficile de préserver le cap de l'amour, de ce lien. C'est pas toujours simple pour le parent, pas toujours simple,
c'est même très difficile.
Ouais, ouais, ouais. Bonjour madame, il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver.
Sandra aurait une question à poser ?
Oui.
Oui.
Il faut parler très fort. Vas-y, vas-y. En fait, je voudrais poser une question. Comme en fait, moi et le papa, en fait, on est séparés. Donc, sur ça, on n'a pas le même éducation. Moi, à la maison, je fais à ma façon et le papa aussi. Vous pensez que ça, plus tard, il peut avoir des problèmes ou en général, pour les enfants, comme ils n'ont pas le même éducation.
Oui, je comprends votre question, Sandra. En fait, loin d'être une gêne, c'est plutôt une richesse. Parce que de toute façon, nous sommes des individus différents. Nous n'avons pas tous la même histoire, ni la même personnalité, le même vécu. Donc, chacun va faire à sa manière, en fait, selon ce qui nous semble important. Et en fait, les enfants s'adaptent. Ils savent, dans les différents milieux, avec les différentes personnes à qui ils ont affaire, voilà, chez maman, ça se passe comme ça. Maman, elle est comme ça avec moi. Chez papa, ça se passe comme ça. Papa, il est comme ça avec moi. Je m'adapte. Et en fait, je parle de richesse parce que ça apprend à s'adapter à différents milieux, différents univers, et différentes règles et différentes personnes, différents types de relations. Ce qui peut être gênant, c'est quand il y a vraiment beaucoup de contrastes et que du coup, l'enfant va se faire son discernement. Parce qu'il va voir aussi chez des copains, des copines, comment ça se passe ailleurs, et il va voir les incohérences parfois de l'un ou de l'autre des parents, les manquements, en grandissant, parce qu'ils sont capables d'observer, de voir ce qui est plutôt une bonne idée et plutôt pas une bonne idée.
D'accord.
Et en tant qu'être humain, on a des capacités d'adaptation très importantes, en fait. S'adapter à différents environnements, ça nous caractérise, ça. Donc, il ne faut pas être trop inquiet si ce n'est pas tout à fait pareil, ou ce n'est pas pareil du tout, chez papa ou maman.
Je vais te poser cette question parce que moi, des fois, Antoine, il dit non, mais chez papa, j'ai fait ça. Et il m'a dit de faire ça. Donc, c'est pour ça, je me dis, là, vous parlez de l'adolescence, quand il va grandir, il va dire, si moi, je lui impose quelque chose, il va dire, non, papa, il m'a dit ça, voilà.
Ouais. Donc, alors, ça dépend ce que papa a dit. Parfois, ça peut être une bonne idée. Du coup, ça peut dire, oui, c'est vrai, il a raison, ton papa, c'est une très bonne idée, on va faire comme ça. Et puis parfois, on ne va pas penser que c'est une bonne idée du tout. Et donc, on va dire, écoute, ici, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire et je préfère que chez moi, on fasse de cette manière-là. Je pense que c'est mieux pour toi. On peut dire ça.
Pour papa, il n'y a pas de règle, en fait. Vu que Antoine, il est autiste, donc le papa, en fait, il fait tout pour le satisfaire, il fait tout, il achète beaucoup de choses, il le gâte, etc. Et donc, moi, des fois, il y a des certaines, en fait, choses que je ne suis pas d'accord. Et voilà, donc là, en fait, c'est un peu compliqué avec le papa parce que, voilà, lui,
En fait, il faut préserver son lien avec son papa et pas trop discuter, même si le papa n'est pas de règles. Peut-être vous pouvez en parler avec son père de temps en temps, que vous deux, pour voir comment aider son papa à mettre quelques règles, pour lui expliquer pourquoi c'est important pour Antoine. Et du coup, par exemple, je ne sais pas, il y a des choses importantes en termes d'alimentation ou sommeil, coucher, vous voyez, pour des tas d'autres choses, ce n'est pas grave les règles, mais il faut se tenir un petit peu au moment de manger et quoi manger, par exemple. Hein, et puis le moment de dormir, de pas, il y a des, et puis pour, pareil pour les jeux sur les écrans, il y a des petites règles qui sont quand même importantes à tenir, voilà, sur quelques secteurs, ce n'est pas beaucoup. Sur le reste, ce n'est pas grave. Et puis de dire à Antoine que c'est important pour lui, en vrai, les règles que vous lui donnez, pourquoi c'est bien pour sa santé. Tu sais, quand maman elle te dit de faire ça, c'est parce que c'est important pour telle raison. Oui, les enfants ont besoin de bien dormir pour grandir, pour être calme. Ouais.
Je vous explique. Ce n'est pas en fait pour moi, le papa, il me connaît. Je suis en fait, quand je vous dis, je suis en règle. L'heure de coucher, c'est l'heure de coucher parce qu'avec Antoine, on ne peut pas changer l'heure de coucher, on ne peut pas changer les habitudes. Donc, en fait, la difficulté que je rencontre avec le papa, c'est par exemple, quand moi, je vais au magasin et qu'il me demande de l'acheter, par exemple, un jouet ou quelque chose, je lui dis non. Des fois, il comprend, mais des fois, il me fait une crise. Il me dit non, papa, quand je lui dis achète-moi ça, il m'achète. Parce que le papa, il ne le refuse jamais. En fait, c'est sur ça que, c'est sur ça qu'on ne se met pas d'accord avec le papa.
Oui.
Et par exemple, la vie. À l'école aussi, à l'école, il y a des difficultés, il a des difficultés aussi. Et moi, je le parle, je lui dis qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut écouter, etc. Et le papa, il me dit, il ne faut pas trop le parler, il ne faut pas trop le mettre beaucoup de trucs dans sa tête, de dire ne pas faire. Il m'a dit que c'est un enfant il, comme les autres. Et il faut qu'il court, il joue, il peut, lui, il le tape, les autres, il le tape. Donc, voilà, c'est sur ça qu'on ne se met pas d'accord des fois. Et c'est un peu difficile.
Je crois que votre désaccord n'est peut-être pas très grave parce que ce qui est le plus important pour Antoine, c'est que son papa s'occupe de lui aussi et le garde aussi. Ça, c'est le plus important. Même si les règles ne sont pas les mêmes et qu'il le laisse faire plus de choses, c'est important parce qu'au moins, il a son papa à ses côtés. Et ça, c'est plus important pour lui. Et nous, bah, c'est vrai que c'est difficile pour vous parce que vous devez mettre quand même des règles pour qu'il apprenne. Mais faites comme vous pouvez, ne vous en demandez pas trop à vous non plus. Hein.
Parce que moi, j'ai parlé avec une psychologue de CAMS. Donc, elle m'a dit qu'en fait, je suis trop sur Antoine, je m'inquiète trop. Elle m'a dit il ne faut pas l'appeler quand il va chez le papa, par exemple. Il ne faut pas l'appeler deux fois ou trois fois par jour. Moi, j'appelle plus de 10 fois. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il n'a pas mangé? Il a fait quoi? Montre-moi, je vais voir. Donc, elle m'a dit il faut laisser un peu que voilà.
Ouais.
Donc,
et, pour montrer à Antoine que vous avez confiance. Que vous, voilà. Êtes, que vous faites confiance à son papa pour bien s'occuper d'Antoine. Parce que comme ça, c'est ça qu'en n'appelant pas, même si vous vous posez la question, en n'appelant pas, et ça veut dire que vous faites confiance quand même à son père de comment il va s'occuper de, son, de votre enfant. Et c'est, ça se passe bien quand il est là-bas. C'est important pour Antoine d'être chez son papa.
Lui, il est heureux. Lui, il me dit, non, maman, ne t'inquiète pas, je suis bien, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai sorti, etc. Mais moi, pour moi, il n'y a personne qui peut s'occuper de lui à part moi. Je me suis dit, non, il n'y a personne qui sait comment faire, s'il va faire une crise, s'il va faire ça, s'il va faire ça. Donc, lui, il me, plusieurs fois, il me dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu verras.
Et, parce que son père va apprendre. Sandra, s'il se passe quelque chose, son papa va apprendre comment faire. Et s'il est en difficulté, il vous appellera pour vous demander conseil.
Et il me dit ça, il me dit, le papa, il me dit, mais t'inquiète pas, si j'arrive pas à gérer, je vais t'appeler ou je viendrai le je vais la ramener. Et moi, je m'inquiète toujours. Pour moi, et, en fait, voilà, il n'y a personne qui va faire, il y a personne qui fait comme moi.
Non, personne ne fait comme vous, mais il n'y a pas qu'une seule façon de s'occuper d'Antoine. Et c'est ça la richesse, la chance, c'est qu'il ait aussi son papa à ses côtés. Donc, il a deux parents, deux adultes, et donc une richesse aussi pour s'adapter. C'est encore mieux pour lui que vous soyez là tous les deux.
D'accord.
Caroline, il y a peut-être quelque chose à quoi vous pensez que vous aimeriez que nous discutions?
Alors moi, je rencontre quand même déjà la problématique des écrans, comme vous l'avez parlé tout à l'heure. Alors ça, je pense que c'est un véritable fléau hein, pour les adolescents, de toute façon. Donc, je suis déjà en guerre à essayer de le limiter au maximum. J'ai paramétré les applications pour qu'il y ait un contrôle parental, tout ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression que maintenant, dès qu'ils n'ont rien à faire, enfin, c'est même pas dès qu'ils n'ont rien à faire, c'est dès qu'ils rentrent ou dès qu'ils sont à la maison, bah, c'est tout de suite le téléphone. Oui. Quoi. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Vrai que... hein.
Ouais, alors c'est un peu casse-pied. Ça veut dire que oui. Pendant les devoirs, vous pouvez décider de certaines règles, hein, de mettre le téléphone avec vous. Il est posé à un endroit ailleurs que là où il fait ses devoirs, pendant le temps des devoirs. Et puis c'est pareil, le soir, il y a des parents qui décident de le prendre à une certaine heure aussi. Vous voyez, après le coucher, dans les familles ou qui décident, par exemple, selon l'âge de l'enfant, hein. Parce qu'après, évidemment, à 15-16 ans, c'est plus difficile d'aller faire ça. Mais quoi qu'il y en a qui continuent encore. Mais bon, après, c'est chacun qui voit comment il considère son enfant. Mais ça peut être des règles familiales où on décide que l'écran, le soir, le téléphone, il n'est pas dans la chambre et il est déposé. Les parents le prennent. Et après, voilà, jusqu'à quel âge on fait ça. On décide ensemble peut-être de l'heure, vous voyez. Les parents peuvent dire une heure, et puis le jeune va dire « Non, c'est trop tôt, hein. Ouais. Bon, alors toi, tu penserais quoi comme heure ?» Vous voyez ? Et après, peut-être il y a moyen de faire un compromis. Et si le jeune, il vous dit n'importe quoi, bah, c'est vous qui allez dire l'heure. Et puis, n'ayez pas peur aussi parfois d'être ferme et d'affronter le mécontentement.
Oui, ça, j'avoue, c'est compliqué. Oui, c'est très difficile. Ouais, ouais. Surtout quand on est dépeint négativement par l'autre parent. Décrédibilisé par l'autre parent ou quoi, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais.
On peut avoir comme argument, écoute, je fais mon job de maman, je fais mon travail de maman, de parent, on n'est pas obligé de dire de maman d'ailleurs. Je fais mon boulot de parent. Là, tu as besoin de sommeil pour dormir. Tu as besoin d'une quantité de sommeil pour grandir. Et je sais très bien que si tu es encore... tu fais tes derniers SMS, tu préviendras tes amis qu'à 9h30, de toute façon, tes parents ont pris le téléphone. Donc, de toute façon, ce n'est plus la peine qu'ils t'envoient des messages. Tu les auras que le lendemain matin. Tu dis au revoir à tes amis et à 9h30, il n'y a plus le téléphone dans la chambre. De toute façon, c'est fini. Le téléphone est éteint jusqu'au lendemain parce que tu as besoin de dormir, parce que c'est très important pour le repos et pour grandir. Pareil pour la quantité d'écran. Il y a des choses où ça va les mettre en rage, mais à vous de définir un temps d'écran. Pour le définir, vous pouvez vous fier à des documents sur les sites gouvernementaux.org. Il y a des sites qui précisent à peu près le temps passé sur les écrans, ce qui correspond à chaque âge, les contenus. Vous pouvez vous en inspirer pour regarder un peu, quitte à montrer à vos enfants et de dire, tu vois, ce sont des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Ce n'est pas juste moi de manière aléatoire qui décide que là, tu as fait assez d'écran aujourd'hui. Parce que pour ton cerveau, tu as besoin d'avoir aussi d'autres activités et pour ton corps aussi qui grandit. Tu as besoin aussi d'une certaine activité physique, de faire une expérience physique pour te développer, de faire d'autres activités. Voilà, viens faire la cuisine avec moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Voilà, proposer des activités alternatives aussi. Et peut-être au moment où c'est la fin de l'activité, ce n'est pas le moment de discuter parce qu'ils vont être en frustration et en colère. Donc à ce moment-là, c'est juste à vous de rassembler votre courage pour être ferme sans être en colère, vous. C'est ça qui est difficile, de garder quand même son calme et d'être ferme, c'est-à-dire ferme sans être en colère. Voilà. Ça, c'est un truc à apprendre, la fermeté, parce qu'on imagine que…
Fermeté, on est tout en étant bienveillant, en fait.
En tout cas, en n'étant pas méchant sur son enfant. On ne le dénigre pas, on ne l'envoie pas bouler, on ne hurle pas dessus. On éteint parce qu'on a décidé d'éteindre. Essayez de penser qu'il y a des choses, il y a des façons de parler qu'on n'oserait jamais utiliser avec nos collègues. Eh ben, quand on parle à son enfant, il faut penser à ça aussi, même s'il nous faut enrager. Hein. Eh ben, il y a des manières, on a des sas à ne pas dépasser. Et c'est comme ça qu'on sera efficace. Non, là, on éteint, on avait dit telle durée. Là, c'est fini. Enfin, voilà, tu as fini ta partie. Le jeu, ça dure à peu près tant de temps. On se met d'accord avant. Là, oui. Voilà, par exemple, ce ne sera peut-être pas des jeux tous les soirs de la semaine. Il y a certains, dans certaines familles, chacun qui met un peu ses règles. Le tout, c'est de ne pas dépasser une certaine durée à un certain âge et puis de varier les activités. Et du coup, on se met d'accord. Voilà, ton jeu, là, si tu fais une partie, ça dure combien de temps une partie? Voilà, tant de temps. OK, donc tu peux faire deux parties ou alors une seule. Et après, il faut vraiment… là, vous venez, ben, puis après, quand il faut éteindre, il faut éteindre. Mais à ce moment-là, on ne discute pas. On éteint, point. Il ne va pas être content. Voilà. Ils vont souvent être très, très en colère même. Et il faut rester le plus stoïque possible et dire, bon, là, on va… De toute façon, on va dîner ou on fait autre chose. Écoute, tu peux aller écouter de la musique. Tu peux… bah, tiens, tu es très en colère. Pourquoi tu n'irais pas écrire ce qui te met en colère? Enfin, pas d'ironie. Peut-être j'exagère. Ce n'est pas une bonne idée. Mais… Et à d'autres moments, lorsque vous êtes au calme, un moment où vous allez faire une course avec votre ado ou vous êtes allé le chercher à son activité sportive et vous discutez tous les deux. Et là, vous pouvez expliquer, tu sais… là, quand je te dis d'arrêter tes jeux, c'est pour telle et telle raison. Parce que ton cerveau a aussi besoin d'autres choses. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait que des jeux et trop d'écran? C'est-à-dire on développe une certaine passivité. Et alors qu'en faisant d'autres activités et en limitant le temps d'écran, on développe ses capacités d'inventer les choses. On développe sa créativité, son imagination. Et tout ça, c'est hyper précieux dans la vie, quel que soit dans nos relations humaines et aussi dans nos métiers, quels que soient les métiers que nous exerçons, d'avoir, vous voyez, cette inventivité. Parce que sur les écrans, on fonctionne avec quelque chose qui est déjà inventé par d'autres. Alors certes, on peut exercer son habileté manuelle quand on fait des cibles, des suivis de cibles et tout ça, et son activité visio-spatiale, mais ça va sur un certain temps. Il faut aussi faire d'autres choses. Et c'est dans les moments où c'est calme que l'on peut expliquer un peu aux adolescents pourquoi on décide telle chose. C'est pas aléatoire, c'est pas sorti comme ça. C'est ça qu'il faut surtout éviter. Mais en général, même avec les enfants, des règles aléatoires et arbitraires qui reposent sur rien. Ça, c'est pas une bonne idée, ça n'a pas de sens. Les enfants, justement, sont très intelligents et dès petits, ils vont questionner les choses que vous les obligez à faire. Quel sens ça a? Et si ça repose sur du bon sens, ils vont savoir tout de suite, ils vont dire « Ah oui, papa a raison, maman a raison. » Ils savent.
La personne. De quoi tu penses, Suzanne? Non, je disais juste par rapport au fait, quand tu disais justement, quand il faut arrêter les temps d'écran, où ça peut être difficile et revenir sur des moments où c'est un peu plus posé. Je sais que dans des familles, il y a des temps familiaux, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas des temps qui sont consacrés comme ça, à un espace de parole, pour vous, les parents, pour les enfants, où on peut s'exprimer, où on peut régler un petit peu les règles qui ont été mises en place. Ça, c'est une bonne façon aussi de valoriser l'enfant et l'adolescent et faire en sorte que sa parole est écoutée aussi. Ça peut être pas mal d'instaurer des petits temps comme ça dans la semaine.
Absolument, voilà. Ça peut être l'occasion d'un goûter dans le week-end, l'apéro du vendredi soir, où tout le monde est un peu réuni et les enfants sont là aussi pour donner un peu leur avis sur ce qu'ils souhaiteraient. Ça peut être sur des menus, sur des heures de coucher, de moduler des choses, parce qu'il y a des règles qui sont installées à un temps, et puis 6 mois plus tard, où l'enfant a grandi, enfin lui, il a grandi, nous, on ne l'a pas vu grandir, il s'est passé quelque chose, une transformation, et c'est lui qui va nous dire, voilà, maintenant, pour moi, c'est trop tôt qu'on me prenne mon téléphone à telle heure, ou là, j'en ai marre de ça, j'aimerais bien, est-ce qu'un jour dans la semaine, je pourrais garder mon téléphone quand même plus tard? Des choses qui se discutent et pourquoi pas. Vous voyez, c'est ça. Je fais confiance aussi aux capacités régulatrices de mon adolescent, de mon enfant. Oui. Parce qu'il est intelligent et il va pouvoir apprendre lui aussi. OK, on essaye. Et puis, si ça ne se passe pas bien, on revient en arrière et on explique pourquoi. Non, ce n'est pas une bonne idée finalement. C'est un peu trop tôt encore. Vous voyez?
Oui, oui.
En fait, il y a quelque chose aussi que je voulais dire par rapport à l'autorité parentale. C'est que nos enfants, on n'a pas besoin de les éduquer d'une manière où on énonce les choses, où on dit il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Si, parfois, on dit il ne faut pas faire ça, mais nos enfants, en fait, on les éduque parce qu'ils font comme nous. En fait, l'éducation des enfants, elle se fait souvent de manière naturelle par mimétisme, c'est-à-dire ils vont copier ce que font leurs parents. Et c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça que nous apprenons. Mais nous-mêmes, adultes, on apprend comme ça. L'être humain, il apprend par mimétisme. Et d'ailleurs, les animaux aussi, les mammifères et tous les animaux apprennent. On voit comment font les autres, et on voit ce qui marche pas, et du coup, on fait pareil. Et les enfants apprennent comme ça. Je prends l'exemple des petits. Dis bonjour, tu dis merci. En fait, les enfants, on n'a même pas besoin de leur dire ça. Ils vont faire comme vous, ils sont à côté de vous. Vous allez acheter le pain et vous dites à la boulangère « Bonjour madame ». Enfin, elle vous dit ça. Et déjà, ben, c'est poli, c'est agréable quand quelqu'un vous salue. Est-ce que vous souhaiteriez ? Ben voilà, donc on se parle d'une manière polie, courtoise. Et on se remercie. Et du coup, les enfants, ils voient très bien. Ah ben, quand on parle comme ça gentiment à quelqu'un, quand on le remercie, quand on lui dit bonjour, ça lui fait plaisir. Et du coup, c'est plutôt agréable. Donc, ils vont faire pareil. Ils vont avoir envie de faire pareil. La façon dont vous mangez à table, dont vous vous tenez, dont vous vous adressez à quelqu'un, le fait de ne pas couper la parole à quelqu'un d'autre, ou alors si vous le faites de vous excuser après, pardon, toutes ces choses-là, de ranger la maison, de faire en sorte que les choses soient un peu organisées, de ses vêtements propres, de ranger. En fait, les enfants, on n'a pas besoin de leur imposer de faire ces choses-là. Ils vont le faire parce qu'ils vous voient le faire. Et que quand ils rentrent et qu'il y a de la place après pour jouer et pour déballer les choses, c'est ça qui leur fait plaisir. Ils se disent, oui, c'est vrai que c'est chouette. Alors, si on ne veut pas tout ranger tout seul, quand il s'agit des jouets de son enfant ou du bazar, on peut lui dire, on va ranger ensemble, mais on le fait avec eux, au lieu de leur demander tout seul et d'imposer à faire des choses qui sont difficiles, en fait, pour eux, de ranger et très désagréables. On le fait ensemble. Et typique de la chambre d'adolescent avec des vêtements partout, des affaires partout, on peut venir y ranger. Et avec leur autorisation, l'intimité des adolescents. On ne rentre pas comme dans une chambre d'enfants quand ils sont plus petits. Je ne veux pas dire que les enfants n'ont pas d'intimité, ils ont aussi une intimité à respecter, mais voilà, il ne faut pas hésiter à venir donner un coup de main pour mettre, ranger le linge, apporter du linge propre gentiment, parce que c'est tout ça que votre enfant apprend, en fait, que vous prenez soin de lui et finalement, ça lui fait plaisir. Et il va apprendre aussi pareil, du coup, en relais, à prendre soin de lui de cette même manière que vous l'avez fait pour lui. À un moment donné, la bascule va se faire. Tout ce que vous avez fait, même à l'adolescence, pour votre enfant, il va se le faire après petit à petit pour lui. D'avoir trouvé, vous voyez, ces petites piles de t-shirts pliés, les chaussettes rangées, les petits caleçons posés, c'est quelque chose que votre enfant trouve, mais qui, adolescent, petit à petit, c'est lui qui va le faire un jour. C'est lui-même qui prendra le relais et qui fera toutes ces choses-là pour lui. C'est souvent source de grandes disputes dans les familles, les chambres d'adolescents, avec tout ça qui traîne. Je t'avais dit de ranger ta chambre, range ta chambre. Bon. Alors, c'est vrai que c'est au moins que ce soit propre, mais vous pouvez soit le faire avec eux, mais vraiment quand même essayer d'éviter de se disputer pour ces raisons-là. Souvent, il y a des choses comme ça qui viennent dans les familles où on oublie de se parler gentiment et il n'y a que des disputes sur les tâches. Sur les tapés des boîtes, t'as rangé ta chambre, regarde, je rentre, il y a encore tes chaussures qui traînent. Et on ne se parle plus, alors que comme si c'était normal et que ça allait de soi, je rentre de la maison, j'ai mon enfant qui est là. Quelle chance j'ai d'avoir cet enfant qui est là, en bonne santé, qui a passé sa journée d'école. Ah, bonsoir, je suis contente de te retrouver. Comment était ta journée? Ou alors, bon, ben moi, je suis fatiguée aujourd'hui, oh là là, j'aimerais bien qu'on passe une petite soirée tranquille. Vous voyez, au lieu de se fixer sur les choses qui devraient être faites et qui ne seront pas faites. Parce que les adolescents, comme tous les enfants, ont autre chose en tête. Ce n'est pas qu'ils ont envie de vous faire suivre en laissant tout le bazar. C'est qu'eux, ils ne le voient pas, ce bazar-là. Ils ne le voient pas. Ils ont la tête ailleurs, dans d'autres choses. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de respecter vos règles et qu'ils s'en fichent de ce que vous leur dites. Ils ne s'en fichent pas de ce que vous leur dites. Parce que les parents sont hyper précieux pour les enfants. Hyper, hyper importants. Et ce qu'il y a de plus précieux, et les amis.
D'ailleurs, les adolescents et les amis, la question d'intimité.
Ouais.
Je pars à 30 et je pars à...
Parce que l'adolescence, c'est une époque où ouais. C'est une période où on se tourne beaucoup vers le groupe, vers les amis, et on sépare un petit peu, c'est momentané, hein, de la famille. Là-dessus, Marlène.
Oui, donc comment on n'est pas en concurrence avec les amis, on reste le maillon de protection. Et on peut imaginer justement bah, les bulles, vous voyez, pendant la grossesse, bah, on a un petit noyau à l'intérieur de maman, un petit bébé, un futur bébé qui grandit. Et puis après, bah, il vient au monde, alors on a maman, papa, et puis je pourrais presque faire un schéma avec des cercles comme ça. Ah oui, Sylvie.
Oui, juste désolée, on est obligé de vous laisser puisque Sandra doit récupérer son enfant pour faire les courses. Donc, merci beaucoup en tous les cas. Oui. Je pense que ça a été très enrichissant. Je pense que Sandra va vous le dire.
Merci beaucoup. Merci
à
beaucoup.
À bientôt. Oui.
Au revoir.
Avec plaisir. Merci. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Et donc, du coup, bah, et voilà, on a des bulles comme ça qui se chevauchent. Et il y a la cellule familiale, c'est vraiment le rond. Et puis, il y a autour de la cellule familiale, bah, les amis qui sont d'autres bulles comme ça qui vont venir. Et à l'adolescence, vraiment, on a un décentrage voilà, de l'enfant qui se tourne vers ses amis. Et ça va être le noyau. Là, ça va être des amis qui vont être comme ça entre eux, les bulles qui se entrecroisent là, avec des intersections très fortes. Et les parents, en fait, vont rester à côté, mais toujours enveloppants, en fait. Rester à sa place de parent, garder... On n'est pas en concurrence avec les amis, mais on devient à côté. Ça devient comme le mur de soutien. Avant, on était dedans avec les enfants, on les guidait. Tiens, c'est dimanche, on va faire un tour en vélo au parc, ou on va faire ci, on va faire ça. Et là, maintenant, bah, c'est plus l'adolescent qui va être un peu sur ses activités. Tiens, j'aimerais bien inviter telle personne à la maison, ou j'aimerais bien aller là, ou je suis invitée là. Et les parents sont à côté, autour, mais pas forcément dedans. Et c'est tout petit à petit la nuance. Alors, qui sont tes amis? Chez qui tu vas quand ils sont jeunes? Jeunes, à chacun de voir son moment. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? J'aimerais bien quand même avoir le numéro de téléphone des parents de ton copain ou de ta copine où tu vas, parce que je ne les connais pas. Quand ils sont jeunes ados, c'est quand même jusqu'à un certain âge. Peut-être qu'on peut s'autoriser à demander les coordonnées des parents de tel ami où va notre enfant. On ne le laisse pas partir comme ça, peut-être n'importe où, à n'importe quel âge. Enfin, après, si vraiment... En tout cas, il faut se sentir autorisé à poser des questions, mais pas aller dans l'intimité de lire des messages sur le téléphone. Voilà, le téléphone de son adolescent, c'est son téléphone, c'est son jardin secret. C'est pas qu'il a des secrets vis-à-vis de ses parents, enfin des secrets, mais c'est son intimité, c'est-à-dire que ça lui appartient en propre et il n'a pas à partager son intimité avec ses parents. Cette espèce de chose qu'on dit dans les familles, on se dit tout, ben non. Heureusement, personne ne lit dans nos pensées. Et de la même manière que dans un couple, on ne se dit pas forcément tout. On se dit énormément de choses. On partage énormément de choses. Mais chacun peut avoir aussi une part d'intimité, de rêverie, de choses qu'on garde pour soi.
Mmh. C'est intéressant.
Oui, Caroline.
C'est intéressant.
C'est vrai. Mais oui. C'est, c'est ce qui nous permet de nous maintenir avec toute notre richesse psychique, avec des fois de la colère, de la rancœur, tous nos mouvements ambivalents, c'est-à-dire nos déceptions. Alors, parfois, on a besoin d'en parler à l'autre, mais parfois, peut-être, on se dit non, ce n'est pas une bonne idée ou pas maintenant, je garde mes peurs pour moi. Vous voyez, tout ce qui va… Voilà, c'est toute une réflexion qu'on a à avoir avec nos propres pensées et nos propres évaluations ou perception de ce qui se passe. Parfois, c'est bien de le partager, parfois pas. Laisser venir son adolescent, partager aussi ce qu'il a envie de partager avec nous. Par contre, si on le voit, quand on s'inquiète pour lui parce qu'on le voit un peu sombre, un peu triste, oui, c'est ça, déployer les antennes pour sentir quand même quand il y a quelque chose qui a changé, qui oui. mange moins bien, qui mange beaucoup plus que d'habitude. Voilà, observer les modifications. Et les questionner. Ouais. Et ce n'est pas du tout pareil à qui tu parles, c'est qui t'a appelé. Enfin, parce qu'il y a des parents qui se permettent vraiment hein, de lire les messages. Oui, oui. C'est plus intéressant de discuter comme on discute. Tiens, comment c'était à l'école, tu as passé une bonne journée, ben, de dire là, tu as quoi alors comme les réseaux sociaux. Et puis, on peut aussi dire non hein, à l'installation de certains réseaux sur les téléphones à certains âges. Tant qu'on trouve que son jeune est trop petit pour être là-dessus, on dit bah non, là, je ne suis pas d'accord, je te désinscris. Mm-hmm. Mais par contre, on peut dire tiens, alors oui, on peut discuter, c'est quoi que tu aimes comme jeu vidéo ou comme réseau et qu'est-ce que vous faites alors qu'est-ce que vous faites là-dessus, c'est délicat, mais pour s'intéresser quand même à l'univers, de quelle manière on peut s'intéresser, comme on pourrait dire t'as vu quoi, t'as lu quoi comme livre, ou qu'est-ce que t'as vu au cinéma, c'était comment, enfin de s'interroger un petit peu sur s'intéresser en tout cas à l'univers de son adolescent d'une manière qui serait pas intrusive pour histoire de savoir, mais je m'intéresse à toi parce que quel est ton univers maintenant que tu grandis?
Après, les difficultés. C'est exactement ce que tu disais, hein, porter de l'intérêt à ce que son adolescent en fait, sans pour autant, ce que tu dis, hein, s'immiscer.
Après, où je peux rencontrer des difficultés des fois avec mon fils, c'est que c'est un peu. Alors, il a beaucoup de colère en lui, de par la situation, qui est. Pas effectivement courante, on va dire, enfin courante, si, mais bon, c'est vrai qu'il est séparé de son frère et du coup, il a beaucoup de colère. Il le voit quand même un week-end sur deux et la moitié des vacances. Mais
parce qu'un week-end sur deux, du coup, il le rejoint chez son père.
Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même toujours un lien qui est fait avec le frère, mais c'est vrai que les deux frères sont séparés. Et allez-y, je vous écoute.
Oui, Caroline.
Et donc, il a beaucoup de colère en lui. Et c'est vrai que des fois, il est un petit peu sanguin, c'est-à-dire qu'il peut être violent avec du matériel, par exemple. Donc, dès qu'il quelque chose ne lui plaît pas, bah, s'il n'est pas dans une bonne période, et bah, le premier truc qu'il a sous la main, il va le jeter ou il va casser. Et ça, c'est pas évident à gérer en tant que maman toute seule aussi.
Et là, vous êtes en couple, Caroline, avec un autre
enfant ? Non, on vit tous les deux, en fait. Alors, on vit tous les deux, mais j'ai un ami, mais je ne vis pas avec lui, en fait.
Oui, oui, d'accord. Et est-ce que votre fils, là, le plus jeune, il est accompagné par un psychologue par rapport à ses colères ?
Oui. Il voit quelqu'un, mais...
Ça l'aide un peu à parler ?
Il est très introverti. En fait, je pense qu'il a peur de dire des choses qui pourraient soit peut-être nuire à son papa, soit peut-être nuire à sa maman. Il a appris, en fait, à garder beaucoup de choses pour lui.
Oui.
Donc, c'est vrai que c'est très compliqué à l'école aussi. Parce qu'il est, il a du mal à supporter un cadre, l'autorité... Donc, j'ai très peur pour les années à venir, quoi, parce qu'il est jeune, mais...
Ouais. Après, la psychologue qui voit, il ne faut pas hésiter à changer si vous trouvez que ça avance moyen. Ça peut être aussi que ça l'aide d'une manière, parce que ça peut être une question de personne, hein. Il peut aussi peut-être être plus à l'aise à se confier avec une autre personne, on ne sait pas, des fois ça tient à quelque chose. Oui. La relation entre un psychologue et un individu, c'est vraiment très subjectif, mais et aussi pour vous, ben de lui permettre effectivement de parler de sa colère, qu'elle est légitime. J'imagine que vous le faites, puisque comme vous nous en parlez, de lui dire que c'est vrai que c'est certainement difficile de ne pas pouvoir être davantage avec ton frère, et que, mais peut-être que lorsque vous grandirez, voyez quelque chose de porter un espoir sur l'avenir, Caroline. Peut-être que quand vous allez grandir tous les deux, de lui dire ça à votre jeune fils. Vous n'allez pas rester tout le temps des enfants comme ça avec votre papa et votre maman. Et quand vous serez peut-être des grands ados tous les deux, vous aurez plaisir à vous voir. Vous serez ensemble, vous ne serez plus obligé comme ça d'être soit avec papa, soit avec maman. Il y a plein de choses que vous pourrez faire tous les deux. Vous êtes deux frères et la vie, elle est devant vous. Vous serez toujours deux frères.
Oui, c'est vrai.
Et c'est vrai ça d'ailleurs.
Bien sûr.
Le plus grand de votre fils, quand il aura fini de grandir. Parce qu'un adolescent, il va se rapprocher du parent de son sexe parce que par mimétisme, exactement ce qu'on disait tout à l'heure, je grandis et j'apprends au contact du parent de mon... Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin, un garçon n'a pas besoin de sa mère et qu'une fille n'a pas besoin de son père. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je grandis aux côtés de ma mère. Si je suis une fille, je vois comment elle est, comment elle fait. Mmh. Alors, soit du coup, ça va avoir envie de faire pareil, soit au contraire, je vais avoir envie de faire tout l'inverse parce que je n'aime pas comment elle est comme femme. Et pareil pour papa. Alors, soit je me dis, c'est plutôt une bonne idée, j'ai envie d'être comme mon père. Parce que ça m'inspire. Donc, du coup, il a besoin de son père à ses côtés pour grandir en tant que garçon, de voir son papa et d'être un peu... Même si on trouve, nous, pas formidable, hein, on va laisser ce mouvement opérer pendant le temps. C'est une étape de la construction. Et après, quand chaque jeune a atteint cette fameuse période de maturité autour des 20 ans, mais ça vient tard, hein, 22, 23 ans, à ce moment-là, la période d'identification, elle va s'apaiser, c'est-à-dire je copie un peu, elle s'apaise et là, il y a une maturité psychique qui arrive qui fait que chaque jeune, garçon ou fille, maintenant, trouve la façon dont il a envie d'être ou elle a envie d'être vraiment, quel que soit papa ou maman, un espèce de mélange après, vous voyez. Et donc ça arrivera tôt ou tard de toute façon. Et plus on est resté... le conciliant, mais présent, sans s'effacer, mais en restant quand même, en donnant, en restant en lien à notre manière, comme vous pouvez, Caroline, mais de rester en lien avec votre garçon, malgré sa colère, malgré ce qu'il semble témoigner contre vous, comme si lui aussi, il endossait la colère de son père contre vous, mais c'est pas la sienne. C'est pas la sienne, donc voilà. Et du coup, vous pouvez avoir envie de ne pas être en colère après lui et de continuer à être sa mère à votre manière et de lui donner ce que vous avez envie de lui donner en tant que maman. Quel que soit ce qu'il montre, qui n'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur.
Oui.
Ouais. Et vraiment, il faut penser ça, qu'il y a une suite, il y a une durée, la vie, c'est pas que... le collège, ou je parle de ça parce que souvent aussi les notes et la scolarité, ça vient brouiller les relations parents-enfants et à l'adolescence, et de se dire, voilà, le livret scolaire, de parler que des notes et du travail. Bon, là, je ne pense pas que ce soit votre cas à la maison, mais je dis quand même un petit mot, de ne pas rester focus exclusivement là-dessus. Passer le bac, rentrer en classe prépa, on dirait pour beaucoup de parents que c'est ça l'objectif, quoi. Mais la vie, elle ne s'arrête pas une fois qu'on a fait des classes prépa, hein.
Bah oui.
L'objectif, c'est pas que mon enfant rentre en classe prépa, c'est qu'il s'épanouisse sur des tas de volets. Donc, c'est vraiment la construction dans la durée. Une note à l'école, c'est une note, elle reste à sa place. Ce qui compte, c'est que mon enfant apprenne à l'école, développe son intelligence, développe ses capacités. Oui, ça sert à rien ce que je fais, j'utiliserai jamais ça dans la vie, le théorème de Pythagore, ou je sais pas quoi. C'est pas grave. Tu vas utiliser dans ta vie toute l'énergie, ton cerveau, il a appris à réfléchir sur quelque chose de compliqué, de très difficile. Et donc, du coup, cette capacité qu'a développée ton cerveau de réfléchir sur cette chose complexe, ça, c'est un truc que tu vas garder tout au long de ta vie, quels que soient les problèmes complexes que tu auras à prendre en main dans ton métier. Quoi, bah, tu es en train d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à te concentrer et d'apprendre à trouver des solutions et à persévérer jusqu'à temps que tu trouves la solution, que tu comprennes les choses, que tu les mémorises. On s'entraîne à mémoriser aussi, à développer notre mémoire. C'est tout ça, en fait, ce qu'on fait à l'école. Donc, souvent, ils sont découragés, mais c'est… de se préparer, leurs aptitudes à faire des tas de choses après dans leurs activités d'adultes.
Oui. Très bien, très bien.
C'est vraiment, voilà, c'est à la fois tenir bon sur les. Rester ferme sans le moins possible de colère, d'animosité, c'est ça le mot que je voulais dire. Oui. Sans animosité. La fermeté, quand on dit à quelqu'un, non, là, je ne suis pas d'accord, mais sans animosité, parce que le but, ce n'est pas de rompre le lien.
Bien sûr.
Ça, ce n'est pas possible, on arrête, on arrête parce qu'il faut que tu arrêtes. Tu as besoin de faire autre chose maintenant. Mm. Et garder la confiance et d'être, continuer à être encourageant, de porter l'espoir. Oui. On est porteur d'espoir pour nos adolescents. Il faut penser vraiment qu'ils traversent un truc, c'est un tunnel, quoi, l'adolescence. On n'a plus de repères parce qu'on n'est plus comme quand on était enfant. On est en transformation. Et donc, c'est pour ça que ça chancelle et que parfois, ils sont super sympas et d'autres fois, horribles, monstrueux. C'est vraiment, c'est compliqué, quoi, une navigue à vue. Sans les repères. Alors, c'est à nous de faire les repères pendant ce temps-là, jusqu'à temps qu'ils soient suffisamment construits pour poser les leurs.
Oui.
On est vraiment la rambarde de sécurité. Ouais. Après, c'est ce qui est intéressant pour continuer à faire la rambarde de sécurité, c'est de se soutenir entre parents, d'avoir des groupes ou des amis avec lesquels on peut parler de nos difficultés de parents, échanger sur nos astuces, etc. Se conforter aussi sur j'ai bien raison d'avoir dit. Non, ou d'avoir demandé les coordonnées quand même des parents, c'est normal.
Oui.
De savoir quand ils vont faire dormir chez tel copain ou faire une petite fête, est-ce qu'il y a des parents? Quand ils ont 14 ans, quand même pas mal de savoir s'ils sont 10 ados ou même 3 ou 4, de savoir à 14 ou 15 ans s'il y a quand même un parent à la maison, quoi.
Oui.
Et toutes ces choses. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être ça suffit pour vous, Caroline.
Oui, c'était très constructif. Merci.
Merci beaucoup de votre présence.
Merci beaucoup, Caroline. Et en fait, si vous souhaitez, on a fait une petite bibliographie qu'on peut vous partager.
Oui.
Alors. Voilà, on vous laisse regarder tranquillement, mais je
peux aussi... vous pouvez prendre en photo ou l'envoyer par photo, mail.
Mais je peux vous l'envoyer aussi par mail si vous le souhaitez. Alors, il y a la bibliographie. Et puis, ça, c'est la bibliographie. Et puis, des lieux ressources aussi qu'on a répertoriés.
D'accord.
C'est tout à fait, vous les envoyez si ça
vous
intéresse.
Oui, je veux bien. Je veux bien, oui, tout à fait.
Parce que c'est bien d'envoyer à Sylvie aussi du gars.
Oui. J'avais votre adresse mail, c'est vous qui avez appelé la dernière fois.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Donc, voilà. Et on vous renvoie tout ça.
D'accord,
c'est adorable. Nous sommes à votre disposition ici, à l'espace prévention santé. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors d'un rendez-vous. On est là.
C'est bon à savoir. OK. Ça marche.
Voilà, Caroline.
Mille merci à vous deux.
À la prochaine fois.
Ça marche. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.